Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Club Anna Kofi. Voilà, chaque mois, on décrypte l'actualité métier, l'actualité de l'Anna Kofi. Et bien sûr, pour en parler, je suis en compagnie de David Charlet. Bonjour David.
Bonjour.
Le président de l'Anna Kofi, programme chargé. On va parler bien évidemment d'actualité, les actualités Anna Kofi. C'est bien sûr cette convention qui arrive très prochainement, ce sera le 7 avril. Et ainsi que l'Assemblée Générale, ça se passera au Carrousel du Louvre. On va parler également Internet, hein, ça bouge pas mal du côté de vos services Internet, pour les adhérents. Educfi, la Banque de France qui vous demande de plancher justement sur sur la gestion de patrimoine, le budget, comment expliquer ça. Le Tour de France qui reprend et le dossier ACPR, réforme du courtage. L'actualité métier évidemment est entachée par ce qui se passe du côté de l'Ukraine, hein, comment les conseillers en gestion de patrimoine font face à cette crise ukrainienne, à cette guerre, le décès de Jean-Pierre Rondeau. Et puis, on va parler également courtage, notamment avec notre invité. L'invité du jour, c'est Robert Leblanc.
Club Anna Kofi, l'invité.
Notre invité Robert Leblanc. Bonjour Robert.
Bonjour.
Vous êtes président d'Aon France. David, une première peut-être... voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité. On est content de nouveau de retrouver un invité dans le Club Anna Kofi et pour un sujet, on va dire, brûlant.
Oui, puis moi, je suis toujours content de retrouver Robert. Ça fait quand même pas un paquet d'années que nous nous connaissons. Et je pense que pour parler de la réforme du courtage en plus qu'on fera à la fin, c'est l'homme qu'il nous fallait parce que c'est l'homme du grand courtage que souvent les CGP n'ont pas comme image. Et donc, il va y avoir ces deux formes de courtage dans cette réforme. Donc, je pense que la discussion sera très intéressante.
Et puis, j'avais présidé la Fédération des courtiers il y a déjà pas mal d'années, une quinzaine d'années. Et j'avais tendu la main à l'Anna Kofi au moment de la réforme des CIF.
C'est là qu'a
créé l'Anna Kofi CIF. Voilà. Voilà. J'avais eu le flair de choisir l'Anna Kofi comme partenaire.
Un mot, Robert Leblanc, de Aon, ou Aon France plutôt, hein, puisque ça fait partie d'un groupe britannique. Vous pouvez nous expliquer le groupe, dimension internationale, et effectivement votre zone à vous, c'est-à-dire la France dont vous êtes le président.
Oui, vous l'avez dit, on est le numéro 2 mondial du courtage d'assurance et de réassurance et des métiers périphériques, mais le cœur de métier, c'est vraiment le courtage, assurance et réassurance, implanté dans le monde entier, dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et une présence donc en France historique maintenant depuis très longtemps. Et je dirige donc la filiale française qui, elle, emploie 850 personnes à peu près. Mmh. Et depuis quelques mois, je suis aussi président non exécutif de la zone EMEA, comme on dit dans les groupes anglo-saxons, c'est-à-dire Europe, Middle East, Afrique. Voilà.
Une grande zone, donc, du coup.
Une grande zone.
Et en plein développement, on peut imaginer. Quels sont les chiffres, tiens, de développement, là? On est sur des chiffres qui croissent, quand même, avec...
Oui, les chiffres croissent. Enfin, en tout cas, les chiffres 2021. La croissance dans cette région-là était au-dessus de 6%. En France, elle est encore plus élevée. Voilà, donc une région évidemment un peu plus compliquée à gérer parce qu'on le sait tous, même malgré l'Union européenne, les pays restent assez différents les uns des autres. Les pratiques sont différentes. Les langues sont différentes. On n'a pas la même mobilité de personnel que sur le continent américain où on peut aller d'une ville à l'autre. On parle partout la même langue. Nous, dans chaque pays, on travaille dans la langue du pays. On parle tous l'anglais pour des échanges internationaux, mais au jour le jour, on travaille quand même dans la langue du pays. Et donc, il est beaucoup plus difficile de passer d'un pays à l'autre. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, ça a plein de bons côtés.
Ah, bien sûr, c'est passionnant. La réforme du courtage, ce sera le débat dans quelques instants, mais pour l'instant, on passe à l'actualité.
Club Anna Kofi, l'actualité.
L'actualité, on démarre avec celle de l'Anna Kofi et cette convention qui arrive, je le disais, David, hein, ça se prépare, le compte à rebours est lancé, ça sera le 7 avril au Carrousel du Louvre.
Oui, c'est un compte à rebours parce qu'elle n'a pas commencé, mais en fait, dans les bureaux pour les équipes, elle a déjà commencé, on est déjà au travail. On va essayer de refaire une convention comme on la faisait dans le temps, hein, c'est-à-dire quand on avait le droit de voir des gens. On y coupe nos assemblées générales, hein, puisqu'il faut se souvenir que notre convention, c'est principalement nos assemblées générales habillées autour avec une partie convention, donc des conférences et puis des exposants. Mmh. On espère qu'on retrouvera l'ambiance qu'on qu'on avait à l'époque. On n'a pas encore, j'ai pas de retour encore hein, sur le nombre des inscriptions et des confirmations de présence. Toujours est-il que ça se dessine plutôt pas mal. Et pour perturber personne, on va vraiment reprendre le modèle que l'on avait avant, quelques petites adaptations, mais on a réfléchi à réformer le modèle et on s'est dit vraiment pour une reprise, pour un redémarrage. On va faire la même chose. Le thème, mais il est très simple, faire le point sur les deux années et quelques qu'on vient de vivre, hein, donc ces années Covid, et puis essayer de se projeter. Voilà, on est vraiment resté sur des basiques, histoire que tout le monde trouve ses marques, c'est se retrouver aussi qui est un des sujets majeurs de cette convention, se re-rencontrer, échanger, et puis ma foi on verra bien si on sera le plus bas atteint, je crois que ça avait été 1200, le plus haut 2400 je crois, et 2000, on verra où on se situera, est-ce qu'on aura 1400 ou 2000 personnes qui viendront, je vous le dirai après.
Ouais. Mais je sais pas combien il y aura de personnes, mais je suis sûr que tout le monde sera content de se revoir en vrai, voilà, de rééchanger à nouveau après tous ces Zooms, ces Teams, choisissez votre formule qu'on a connue. Pour vous aussi, j'imagine, Robert Leblanc, c'est vrai que c'était une période compliquée. Alors, ça n'a pas trop impacté les métiers de service, mais vous allez me répondre, effectivement, vous vous êtes adapté, bien évidemment.
Oui, on s'est adapté. Comme on avait mis nos bureaux en flex quelques temps auparavant, tous les collaborateurs de Paris étaient équipés d'ordinateurs portables et téléphones portables. Donc déjà, quelques jours avant à peu près l'anniversaire d'il y a 2 ans, on sentait la menace arriver. On disait à chacun, rentrez chez vous avec vos ordinateurs. Parce que si vous pouvez pas revenir au bureau demain, vous pourrez toujours travailler de chez vous. Et puis à partir de la mi-mars, effectivement, ça s'est imposé à tout le monde. Donc on a pu travailler comme ça. Je m'empresse de dire que ça permet d'exécuter les tâches. On l'a très bien fait. On a servi nos clients. Mais c'est pas comme ça qu'on fait vivre une entreprise. Et dès la fin du premier confinement, on a réouvert et on n'a jamais refermé. Le taux de présence variait en fonction des règles en vigueur qui variaient périodiquement, mais on a tenu à avoir les équipes présentes autour de nous pour avoir la dynamique qui fait que les gens sont heureux de travailler et que les choses avancent.
Effectivement, l'adresse du président de la République, c'était le 16 mars 2020, donc pratiquement 2 ans tout pile. David, on continue sur les actus avec l'Internet, la digitalisation est en marche évidemment à l'Anacofi, le CRM est prêt.
Oui, il est prêt.
On a le CRM, mais donc, on va parler de la gestion de la relation client. Voilà, c'est l'outil qu'on utilise.
Oui, la relation adhérent. La version 2 avait été lancée le nouveau CRM, puisqu'on avait déjà un système totalement digital qui nous avait permis de passer la période Covid. Mais on avait voulu moderniser, donc on avait lancé un nouveau projet et on a fini de livrer la version 1 de ce nouveau projet. C'est assez décevant, pour être honnête. Hein, puisqu'on avait prévu que ça fonctionnerait bien avant, et là on finit le débugage de la version 1 de ce nouveau paquet, et on va attaquer, mais ceci dit, décevant, aujourd'hui ça fonctionne, donc on va s'en satisfaire, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre qu'on ne le pensait. Donc on passe maintenant à la deuxième phase. La deuxième phase qui devrait nous permettre d'ici un mois d'avoir une évolution majeure, un peu plus de confort encore pour nos membres. Et la mise en place de cette deuxième phase, par contre, va se terminer dans le courant de l'été. Vous voyez, ce sont des chantiers quand même assez longs. Plus long qu'on ne l'aurait imaginé au départ, tout en étant accompagné. Mais je pense qu'on va pouvoir satisfaire encore un peu mieux nos adhérents, permettre aux équipes de bosser dans de bonnes conditions avec plus de fonctionnalités. Et puis, c'est aussi lié à la réforme du courtage, être capable d'encaisser tout ce qui est demandé. Voilà. Donc, le dernier élément qui apparaîtra, ce sont les sites. Les sites apparaîtront dans l'été. Les sites internet seront réformés. Et là, quand vous verrez de nouveaux sites, c'est que nous aurons totalement terminé les évolutions qui étaient prévues.
Même question, tiens, une petite question sur cette digitalisation qu'on a connue, on le disait tout à l'heure, en accéléré. Vous aussi, vous avez fait de l'effort pour équiper, pour digitaliser encore plus avec cette période ?
L'effort était engagé bien avant. En réalité, je vous disais qu'on était en flex, ça veut dire qu'on avait vraiment réussi à travailler en zéro papier. Hein. Alors, c'est jamais un zéro absolu. Il y a quelques activités sur lesquelles il faut bien un peu de papier, quelques archives, mais l'essentiel de nos opérationnels sont en zéro papier, et donc le flex justement n'est envisageable qu'à cette condition-là. L'époque où il y avait le caisson qu'on choisissait en arrivant, bon, une vieille histoire, mais pas chez nous. Et chez nous, voilà, quand on
le flex, on rappelle Robert Leblanc. C'est-à-dire qu'on peut se mettre où on veut, finalement. On a un ordinateur et son téléphone, donc du coup, l'espace est complètement partagé.
Alors, il y a des habitudes qui se prennent. Néanmoins, je sais que je retrouve un peu les mêmes, toujours du même côté. Mais voilà, il y a quand même cette souplesse avec des espaces. On a fait les choses bien, on a fait avec des espaces très, très bien décorés et sur, dans un étage clé. Si bien que les personnes des autres étages voyant ça, on dit, mais est-ce que nous aussi on y a droit? On dit, bah oui, tout le monde y aura droit. Et donc voilà, les choses sont faites. On n'a pas cherché à faire des économies de mètres carrés forcées, comme parfois on le fait avec le flex, qui rend les choses quand même ensuite difficiles pour tout le monde. Sans forcer le trait, j'ai envie de dire qu'au lieu de ne plus avoir chacun sa place, chacun a toutes les places possibles. C'est voilà, je suis pas en campagne.
Vous le vendez bien.
Voilà, pour ça je précise, je suis pas en campagne, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a des espaces différents, il y a des fauteuils, il y a des chaises, il y a des tabourets, il y a des tableaux, des tables basses, des tables rondes, des tables carrées. Et au fond, chacun, en fonction de ce qu'il a à faire, peut aller à un endroit ou à un autre. On change pas toutes les minutes, évidemment, mais jour après jour, ou même demi-journée après demi-journée, on peut changer de côté. Et voilà.
Et dans l'organisation justement de vos salariés, les gens ont le choix ou aujourd'hui tout le monde revient au bureau?
Alors, on est très largement revenu. On a respecté chaque fois les jauges que le gouvernement fixait. Moi, j'aime bien rappeler que dans nos discussions avec les partenaires sociaux, leur demande était surtout, est-ce que les personnes dont vous considérez qu'elles ne sont pas absolument nécessaires sur place, mais qui sont fatiguées de travailler chez elles, est-ce que ces personnes peuvent revenir?
Oui, c'est vrai.
Voilà. La question était dans ce sens-là. Évidemment, on a toujours dit oui, dans la limite des jauges, bien sûr. Mais on a toujours dit oui. On est favorable à ça. Et voilà, et donc les partenaires sociaux y étaient favorables aussi. Donc
Parce qu'on l'oublie, il y a quand même des gens qui préfèrent travailler au travail et pas sur un coin de la cuisine.
Moi je préfère, quitte à travailler, j'aime mieux être dans un environnement dédié.
Exactement. On parle de Educfi également, qui vous demande, la Banque de France, qui vous demande de plancher justement sur la gestion de patrimoine, le budget, expliquez ça mieux.
Oui, c'est. Alors, le programme Educfi et la Banque de France en est l'opérateur, nous on en est membre. Ils nous ont demandé quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais après tout, pourquoi pas, et on va essayer de les suivre là-dessus, c'est de les accompagner pour essayer d'apporter de l'information à ces jeunes gens qui vont faire le service national. Donc c'est quelques jours où ils vont apprendre un certain nombre de choses, voir un certain nombre de choses. Et donc, écoutez, c'est tout frais, mais on a répondu positivement. On va voir ce qu'on peut faire pour eux dans les différentes régions de France et essayer de trouver des professionnels de nos métiers capables d'aller expliquer. Alors, plancher... Non, parce qu'en fait, c'est eux qui vont nous donner, dans le cadre du programme Educfi, qui détermine ce qu'ils veulent que l'on fasse passer, avec quels outils. Mais on va essayer d'envoyer quelques professionnels de terrain, quelques dirigeants de nos entreprises là-dedans, où ce sera possible. Parce que par contre, mailler toute la France comme eux le souhaitent, vu le maillage qui est le leur, ça va être compliqué. Mais on va essayer de tenir notre place au mieux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et que nos chefs d'entreprise, s'ils veulent bien descendre, de temps en temps faire ça, ça sera utile pour tout le monde, y compris pour des jeunes gens qui verront donc aussi des chefs d'entreprise de nos métiers face à eux et pas des enseignants qui ne sont que ça, quoi.
Voilà, d'habitude, le terrain. On parlait justement de mailler la France. En tout cas, vous reprenez, quant à vous, le Tour de France Anacofi. Ça démarre avec Paris, ensuite il y aura Toulouse, Montpellier, etc.
C'est ça, on enchaîne, on va attaquer assez fort parce qu'on a moins de mois que d'habitude. Toujours pareil, le Covid a fait qu'on a supprimé un certain nombre de mois d'action par sécurité. Résultat, ça va être assez dense. Donc, on va attaquer par Paris autour de la Convention. Et puis, on va y réunir, d'ailleurs, la veille de la Convention, nos représentants régionaux. Et puis ensuite, c'est parti et on attaquera. On va effectivement faire le Nord, Toulouse, Montpellier, Angers, Bordeaux et Rennes avant la fin du mois de mai, juste pour que vous vous rendiez compte. Oui. Hein, j'ai même pas juin.
Je croyais que vous alliez me dire avant l'été, mais.
Non. Après, on va continuer. Mais voilà, juste pour se rendre compte de ce qu'on va essayer de faire sur avril et mai, on essaye de rattraper ces mois perdus, ce mois de mars qui n'a pas été utilisé, ni même le mois de février, alors que dans les années habituelles, classique, on a au moins un certain nombre d'actions dans ces mois-là. Quoi.
Voilà, le Tour de France qui reprend, et puis dépôt du dossier ACPR, bien évidemment, sur la réforme du courtage.
Oui, ça on va en reparler tout à l'heure, mais le dossier, voilà, on l'avait déjà dit dans l'émission d'avant, il avait été déposé, on a eu quelques allers-retours avec l'ACPR. Voilà, les allers-retours sont finis, on attend maintenant le retour de l'ACPR. Peut-être que quand l'émission sera diffusée, puisque nous avons... nous enregistrons un peu avant, nous aurons la réponse, en tout cas on espère, parce que sinon ça signifierait que nous lançons tous les développements un peu tard. Alors ceci dit, on a quand même déjà donné les ordres pour que les développements se fassent. On espère que la CPR ne nous donnera pas une réponse en nous demandant quelques modifications de dernière minute qui auraient des impacts, mais voilà.
On passe maintenant à l'actualité métier. On ne peut pas bien sûr faire l'impasse sur la crise qu'on connaît actuellement, la crise en Ukraine et ses impacts sur les conseillers en gestion de patrimoine. Bon, un impact principal qu'on voit tous, hein, c'est ce mini-crack, on peut dire ça, hein, sur les bourses mondiales, mais particulièrement en Europe, on souffre. Quelles sont les remontées de terrain que vous avez, David, du côté des conseillers en gestion de patrimoine?
Alors, on a de deux natures, mais on n'en a pas énormément. J'aurais pensé qu'on en aurait plus. La première, c'est de nous demander quelle est la position de l'Anacofi quant à ce qu'il faut que les professionnels recommandent à leurs clients. Ça, c'est pas notre job. Voilà, c'est le job de chacun d'entre nous. S'il y a un régulateur qui s'appelle l'AMF, qui travaille sur les risques et qui peut de temps en temps prendre des positions, relayer les positions des différentes autorités ou des analystes indépendants, ça peut être notre job. Bâtir nous-mêmes une position, c'est pas notre métier. Et à celle-ci, même si les demandes sont peu nombreuses, il y en a. Voilà, notre réponse, c'est ça. C'est pas de problème pour relayer, mais... la deuxième chose, c'est d'écouter ce que disent certains membres concernant les prestations qu'ils délivrent, au sens de est-ce qu'ils sont inquiets, est-ce qu'ils sont pas inquiets, est-ce que ça se passe bien ou mal. Il y a une tension autour de ce que font les marchés et donc de comment ils doivent réagir. C'est pas qu'ils nous demandent là, je parle pas de ceux qui nous demandent ce qu'ils doivent dire, mais on sent bien qu'il y a une tension. On nous a demandé de faire beaucoup d'unités de compte, hein, pour ceux qui accompagnent en placement, hein. On nous a dit le fonds euro c'est fini, faites de l'unité de compte.
Ça a bien marché en 2021.
Mais donc, mécaniquement, derrière, il y a une question. Et puis, il y a ceux de nos confrères qui avaient de l'interaction avec la Russie ou l'Ukraine directement. Ils existent. Donc, on entend aussi quelques voix de ce côté-là. Ceci dit, on a aujourd'hui pas de phénomène massif. J'aurais pensé qu'on en aurait plus que ce que nous avons aujourd'hui. Mais voilà.
Oui, après on suit ça évidemment au jour le jour. On voit quand même, alors pas du côté des conseillers en gestion de patrimoine, mais de leurs clients, certains qui s'inquiètent, forcément la guerre, ça inquiète, et notamment au niveau de la solidité de nouveau des banques. Est-ce que mon argent est en sécurité? Est-ce que je ferais pas mieux de tout retirer? Est-ce que ma banque qui a des avoirs en Russie, est-ce qu'elle va pas faire faillite? C'est vrai qu'il y a certaines questions qui reviennent. Il n'y a pas eu d'inquiétude ou pas de communication de la part des grandes instances pour l'instant sur ce sujet.
Pour l'instant, mais il y a toujours eu cette inquiétude, quelle que soit la crise. On a tous dans les clients qu'on a rencontrés dans notre vie, des gens qui ont eu ce type d'inquiétude quand il y a eu une crise. Quelle que soit la nature de la crise. On parle de la guerre qui est aujourd'hui à nos portes, mais rappelez-vous le début du Covid. Deux semaines à aller faire des gâteaux, et puis après le réveil de tout le monde, et puis des clients qui commençaient à dire « Mais est-ce que tout ça ne va pas s'effondrer? Est-ce que je dois sortir mon argent ?» Je crois que je l'ai entendu à chaque crise depuis le début de ma carrière, avoir des inquiétudes autour de ça. Bon, donc, oui, bien sûr, on les gère.
Qu'est-ce que je veux dire ? Pas de bank run, sauf évidemment en Russie, mais là, la situation est tout à fait différente. Tiens, on se tourne de côté des assureurs. Alors, on sait, hein, que la guerre, c'est dans les petites lignes, c'est une clause d'exclusion, en tout cas. Hein. Là, l'assureur, il désengage complètement, j'allais dire, 4 forces majeures, si tout est détruit. Mmh. Évidemment, on ne pourrait pas, de toute façon, tout assurer. Votre réaction, Robert Leblanc, à ce qui se passe du côté de l'Ukraine ?
La réaction, vous le savez, un communiqué a été diffusé par le groupe au niveau mondial, hein, pour dire qu'on cessait nos opérations en Russie, mais qu'à l'inverse, on continuait de payer nos collaborateurs en Russie et en Ukraine. Le groupe est très attaché à... dans tous les discours du groupe, il y a toujours les collaborateurs en premier, et puis il y a les clients, et puis il y a les actionnaires. C'est vraiment les trois groupes qui comptent. Et l'attention aux personnes dans notre métier, c'est pas juste une gentille attention, une générosité un peu facile. C'est que c'est quand même ce que nous avons d'essentiel. On est un métier de service, comme les métiers de l'Anacofi. Et donc c'est la ressource humaine qui est la principale ressource. Donc l'attention aux personnes, elle est sincère, elle est importante, et donc le soutien à nos collaborateurs et à leurs familles dans les pays concernés par cette crise est affiché par le groupe de manière très claire. Mais pour autant, on cesse les opérations là-bas. Alors c'est facile de dire que le groupe cesse les opérations, ça veut dire qu'on va pas chercher des clients russes en Russie. La question qui reste ouverte pour nous, c'est, pour nous par exemple en France, qui avons des clients, des industriels français qui ont des implantations en Russie, ça veut dire quoi ? Voilà. Il ne s'agit pas pour nous d'abandonner nos clients, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction gouvernementale. On a juste une opération en Russie qui cesse d'être active. Comment on accompagne nos clients? Quelles sont les garanties qui s'appliquent ou pas? Vous avez dit, effectivement, très justement, depuis toujours, la guerre est un motif d'exclusion des contrats d'assurance, puisque la destruction est volontaire, même si elle n'est pas volontaire de la part des assurés. Mais voilà, un contexte de destruction volontaire.
Sauf que, est-ce que la Russie est en guerre,
finalement? Voilà, est-ce que la Russie est en guerre? Alors, je pense que les juristes, les avocats auront matière à développer des thèses qui s'opposeront entre ceux qui diront oui, la guerre est engagée par la Russie, donc la Russie est en guerre, et ceux qui vous diront sur le sol russe, il n'y a pas de guerre.
Voilà, en tout cas, le grand patron, directeur général, CEO d'Aon Group, Greg Case, a affirmé que suspension de l'activité opérationnelle en Russie et mettre nos collègues en Russie en congé payé, en attendant évidemment que ça se normalise, en tout cas on l'espère.
On n'abandonne pas les collaborateurs.
Bien évidemment. On a fait le point bon, sur cette crise ukrainienne, on verra les développements. Oui. Pour l'instant, pas d'inquiétude, on en parlera sans doute durant à la convention.
Peut-être un mot sur l'impact financier, parce que vous l'évoquiez avec l'Anacofi, on a eu des crises financières, des crises économiques, celle du Covid et celle de l'Ukraine ne sont pas de cette nature-là.
C'est pas systémique, c'est ça?
Voilà, ça frappe bien sûr l'économie, mais qui... elle, par ailleurs, dans ses mécanismes, était solide à ces moments-là. Donc, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, où au fond, les économies ont bien résisté, et maintenant, on verra avec l'Ukraine, on en est au tout début, on ne sait pas pour combien de temps on est engagé dans cette crise, mais l'économie elle-même allait très bien, et les institutions financières sont solides, donc c'est rien à voir avec la crise de 2008.
Il n'y a pas d'ailleurs de crise de liquidité, mais on en parle évidemment parce que ben voilà, le monde entier ne en souffre pas, hein, mais c'est vrai que là c'est au cœur de l'Europe à nos portes, et évidemment eh bien, les marchés en tout cas subissent cette pression en ce moment et ces inquiétudes légitimes. David, autre sujet, un petit peu malheureux malheureusement, Jean-Pierre Rondeau nous a quittés.
Oui.
C'était...
Alors Jean-Pierre Rondeau, c'était l'ancien président de la compagnie des CGPI. Il avait été président de la CIF CGPC avant. Enfin, c'était un syndicaliste du monde de la gestion de patrimoine que je pense que tous les CGP connaissaient, hein, avec son franc-parler, l'ancien para. Qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, c'était un compagnon de route, je pense, de tous les syndicalistes de l'univers de la gestion de patrimoine. On s'est tous à un moment ou un autre engueulé ou entendu avec lui, voilà, et on savait qu'il était malade depuis très longtemps. Il nous a quittés il y a quelques jours. Bon, voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter là-dessus, si ce n'est que c'était un vrai monsieur et c'était un de nos compagnons de route, je pense pour beaucoup d'entre nous. Donc ça doit en toucher quelques-uns.
Sans transition, on parle toujours dans les métiers, voilà, du retour de l'AMF concernant justement cette question du courtage.
Le retour de l'AMF.
Est-ce qu'on l'a eu? Non.
Non, sur le courtage, l'AMF, elle est pas venue. La CPR, on va reboucler dessus après. Mais l'AMF sur le courtage, non. Là où on attend l'AMF, c'est sur le retour suite à nos contrôles. Elle a contrôlé les 4 associations CIF l'année dernière. Et on attend son retour. On ne l'a pas. Donc, on aurait dû l'avoir. C'est ça, en fait, on aurait dû l'avoir. Peut-être qu'au moment où l'émission sera diffusée, mais dans ces quelques jours-là, j'y crois pas trop. Enfin, peut-être, on verra bien. On l'attend, ce qui amènera peut-être à quelques corrections. Vous voyez, je mets beaucoup de peut-être parce que on ne sait pas très très bien quelles conclusions on tirait. Les contrôles se sont passés. On s'est pas fait taper trop fort sur les doigts. Donc, ça doit aller. Mais il est probable quand même que l'AMF impose quelques évolutions aux associations dites de co-régulation. On attend. On pensait vraiment avoir réglé cette histoire bien avant. C'est pas très grave. On le réglera quand ça arrivera et on verra quelles évolutions on est obligé d'apporter.
Voilà. Ouais, voilà. De jour maintenant. Très bien. Allez, tout de suite, on démarre notre débat. Justement, la réforme du courtage, qu'est-ce qu'elle va changer?
Club Anacofi, le débat.
Le débat avec David Charlet, président de l'Anacofi, Robert Leblanc, président d'Aon France. Messieurs, on parle réforme du courtage. Cette réforme du courtage, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Qu'est-ce que ça va changer, Robert Leblanc, pour justement l'ensemble de votre profession?
L'appellation réforme du courtage me surprend un peu. C'est une réforme de la manière de le contrôler. L'exercice du métier ne change pas. La manière de le contrôler, de manière traditionnelle, il y avait un corps de contrôle, il y avait maintenant, ça s'appelait l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, et le R.
Résolution.
Résolution, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pour ça que je l'oublie.
Les crises systémiques.
Les crises systémiques, très bien. Et voilà, donc, voilà, c'est une profession réglementée, on est dans un secteur financier, il y a des flux d'argent importants, le courtage encaisse les primes et les reverse aux assureurs, parfois, et aussi sur le chemin du règlement des sinistres, donc il est normal que tout ça soit contrôlé. La grande évolution, la réforme dont on parle, c'est de créer des associations, comme il y en a déjà du côté des CIF, c'est un peu le modèle, multiples, c'est pas une seule, par définition, parce qu'il y a des règles européennes qui l'imposent, c'est plusieurs associations, concurrentes les unes des autres, auxquelles l'ACPR délègue son pouvoir de contrôle. Donc, voilà, ça change pas grand chose, sauf que, au lieu, on paye des, je pense pas que nos impôts soient allégés du fait que la CPR n'a plus à faire tout le travail elle-même, et on rajoute à la CPR des associations qu'il faudra bien financer pour faire le travail que la CPR leur délègue. Donc, je vois là-dedans surtout quelque chose qui alourdit le travail, qui est une charge supplémentaire. Pour une maison comme celle que je dirige, ça n'a pas beaucoup d'importance. On a, je vous disais, plus de 800 salariés. S'il faut avoir une ou deux personnes qui passent plus de temps à remplir les différents documents qu'il faut transmettre aux associations, c'est pas très grave. Mais si on était 10 fois moins, ce serait toujours une ou deux personnes, donc en proportion quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc je pense que c'est une réforme qui, une fois de plus, pousse à la concentration. Donc vu d'où je vois les choses personnellement, ça ne me pose aucun problème, mais ça me dérange un peu intellectuellement.
Ouais. David.
Ah bah, on n'est pas toujours d'accord avec Robert. Hein.
Bon, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, c'est là, donc on va pas en débattre, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça va changer pratiquement? En tout cas, pour vous, ça a un véritable impact, puisqu'il y a potentiellement des milliers de nouveaux adhérents.
Si on parle de l'association, indéniablement, je pense que tout l'écosystème des associations, il bouge. Aujourd'hui, l'Anacofi est la principale en nombre de membres. Elle est, à ma connaissance, la seule qui passe les seuils, puisqu'il a été imposé des seuils dans tous les domaines. On les a déjà. Quand la CPR nous a demandé dans le dossier de démontrer qu'à 2 ans, on atteindrait les seuils, on les a déjà. Bon, voilà. Donc, mais ça va changer quelque chose. Peut-être qu'avec l'afflux d'entreprises vers des associations, on finira par être la deuxième parce qu'on aura décidé de faire un tri différent dans les membres qui nous rejoignent ou pas. On verra bien. Et ça va institutionnaliser plus d'associations qu'il n'y en avait avant, qui avaient une image institutionnelle. Bon, maintenant pour les entreprises, Robert dit contrôle, c'est le mot que ne veut pas la CPR. En fait, elle veut vérification. Bon. Donc, nous allons vérifier un certain nombre de choses. Avec la nuance est assez limite, mais je pense que le terme de contrôle est refusé pour deux raisons. La première, c'est que le texte européen interdit de contrôler certaines choses par des organisations constituées de professionnels. Donc, tout ce que le texte européen ne veut pas qu'on contrôle, on pourra pas aller le contrôler. Et du coup, ce qui reste à regarder, ce sont des éléments qui sont des éléments très administratifs. Et qui ne sont pas les éléments qui permettent de produire. Par contre, on doit accompagner. Ces associations sont aussi des associations d'accompagnement. Et là, pour le coup, en effet, elles vont devoir produire un service. Dire que les petits vont avoir du mal, théoriquement, c'est fait pour leur permettre de faire ce qu'on a constaté qu'ils n'arrivaient pas à faire. Donc, c'est vrai que ça aura un coût pour ces petits. Mais le sujet, c'est qu'on constatait qu'ils ne faisaient pas ce que la loi prévoyait. Et donc, certes, ça va entraîner une facturation d'une cotisation à des gens qui n'en payaient pas aujourd'hui, mais on va au moins pouvoir faire en sorte qu'ils aient un médiateur, qu'ils aient des kits réglementaires corrects, alors qu'ils n'ont pas de juriste chez eux, etc., etc. Alors, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Moi, je pense que, au regard de ce qui s'est fait sur les CIF, on a beaucoup dit la même chose à l'époque. On a pu voir que finalement ça a permis à une grande majorité d'avoir des solutions de conformité de leur entreprise à pas cher. Et pour les plus grands, finalement, ça les a pas tant gênés. Quand on voit les grands acteurs de la gestion de patrimoine, Robert, quand on s'est rencontrés, ils n'existaient pas. Hein. Aujourd'hui, ils existent. Et ils ont un nombre de salariés importants et des parts de marché très correctes. Voilà, voilà ma vision. Pour les associations, ça va être, c'est beaucoup plus lourd que le système des CIF. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Hein.
Est-ce que ça veut dire pour vous aussi de nouveaux collaborateurs, peut-être, pour absorber les nouveaux systèmes?
Franchement, entre le projet du départ et le projet tel qu'il est amené et guidé par la CPR, on arrivera exactement au résultat qui était prévu pour les entreprises. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Et donc, on était pour, on était contre. Mais si on était pour, on n'a pas de surprise qui sera délivrée aux entreprises. Ce sera bien ça. En revanche, ce que l'on a découvert comme lourdeur imposée dans les associations, c'est sans commune mesure avec ce que l'on avait envisagé. Ce qui ne veut pas dire que ce soit infaisable. On a déposé un dossier et on a résolu toutes les problématiques que soulevait la CPR au fur et à mesure qu'elle les soulevait. Mais oui, bien sûr, on aura d'où les moyens techniques différents, d'où plus de salariés. Mais par exemple, si on parle des coûts, nous, à l'Anacofi, on n'a pas besoin d'augmenter nos coûts. Mais des gens qui ne payaient pas de cotisation chez nous vont bel et bien en payer. Ça, c'est vrai.
Pour vous, Robert Lebon, vous me disiez, on sait hein, quand il y a des nouvelles... Bon, c'est pas une régulation, mais c'est un nouveau cap à passer. Ouais. Il faut aussi savoir prendre, aussi saisir ces opportunités. C'est-à-dire, on l'a vu dans les différentes réglementations qui sont abattues sur les conseillers en gestion de patrimoine, mais sur l'assurance, c'est à peu près du même acabit. On y fait face, et puis finalement, il faut trouver aussi ce qui peut être intéressant pour vous et votre métier de tous les jours.
Oui, mais... Je le redis, on avait une autorité de contrôle qui contrôlait cette profession, et c'est bien légitime. Une profession qui est soumise à des réglementations qui ne cessent de s'alourdir, comme partout, c'est pas très original. Ce que je vois, c'est qu'au fond, au lieu de faire son travail elle-même, la CPR décide de le déléguer à des associations. Et donc, on multiplie les outils, on multiplie les frais. Voilà, c'est mon principal constat. Et surtout, j'avais été assez favorable à l'idée d'un autocontrôle, mais on en est très très loin. C'est plus de ça qu'on parle aujourd'hui, avec cette idée que, au fond, quand il y a eu quelques pépins dans la profession dans les années passées, on le voyait venir, nous les professionnels, avant que l'autorité ne se manifeste et tire l'échelle. Il y a eu quelques cas, je ne citerai pas de nom, ça se fait pas, mais notamment dans l'assurance construction, il y a eu un cas assez retentissant il y a quelques années. On était tous certains que ça allait se produire, tous dans la profession, ceux qui pratiquaient ce métier-là. Et l'autorité de contrôle n'est arrivée que quand finalement l'incident a éclaté et que le problème était consommé. Bon, donc moi je me disais finalement, si on nous confiait le soin de gérer notre profession comme un ordre, on saurait peut-être anticiper les problèmes. Je suis pas sûr d'avoir raison en disant ça. Je suis sûr, oui, pour les cas d'entreprises importantes, il y a des milliers de courtiers. Je pense qu'on ne serait pas capable, par nous-mêmes, d'identifier les problèmes qui peuvent exister sur des acteurs moins visibles. Voilà. Donc cette idée d'un autocontrôle à laquelle j'étais favorable pour cette raison, au fond, n'était pas si opératoire que ça. Mais ce qui est fait, honnêtement, aujourd'hui, pour moi, n'apporte vraiment pas grand-chose. Voilà. Alors, nous, on n'est pas à l'Anacofi, puisqu'on ne fait pas de gestion de patrimoine. Je disais tout à l'heure que j'avais présidé la Fédération des courtiers. Aujourd'hui, ça s'appelle Planète CSCA. Nous sommes membres de Planète CSCA. Tous les grands courtiers en sont membres et font d'ailleurs c'est un acte citoyen, un acte de générosité, parce qu'au fond, les services rendus sont plus pour les petits que pour les grands. Mais c'est très bien que les grands soient membres aussi. Moi, j'ai jamais douté de l'intérêt de le faire, et mes confrères sont également adhérents à Planète CSCA. Et donc, cet organisme est à la fois, c'est un organisme syndical, mais la loi sur cette réforme empêche l'organisme syndical d'être en même temps l'association, parce qu'il faut des associations multiples, et donc on a une association élaborée par Planète CSCA dont le nom est en train de m'échapper, mais toi tu le vois.
C'est entier, me semble.
Oui, je crois que ça ressemble à ça, en tout cas. Et avec un Y, sauf erreur. Mais voilà. Et qui est concurrente de l'association créée par l'Anacofi et de peut-être d'autres. Je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui.
6, 7. Je crois qu'il y a 7 dossiers déposés.
Je pense que les deux principales, c'est ces deux-là, forcément, par construction, compte tenu des adhérents naturels des deux organisations. Voilà. Donc, beaucoup d'agitation pour quelque chose qui alourdit encore un peu, qui complique un peu et qui change pas grand-chose.
David, droit de réponse, ça va être à vous de prouver qu'il y a une valeur ajoutée.
Droit de réponse, c'est en grande partie dans ce que vient de dire Robert, c'est le constat qui était fait que beaucoup d'acteurs ne respectaient pas la loi et que le régulateur n'arriverait pas autrement qu'en gendarme violents, c'est-à-dire en arrivant quelque part, en constatant que c'est pas le cas et en les allumant. Donc l'idée de ces associations d'accompagnement, elle est en effet certainement plus efficace pour les petits acteurs que pour les plus grands, qui de toute façon, Robert, dans la discussion qu'on a eue, hein, toujours dit, j'ai les équipes en interne pour pouvoir être responsable juridique et autres, même les lobbyistes, enfin tous les grands acteurs les ont, donc une grande partie des services que nous apportons, même dans la représentation, c'est le collectif, mais en dehors de ça, voilà, c'est des commissions de travail communes, mais en dehors de ça, il faut voir. Là, en fait, on va mettre à la disposition des petits acteurs tous ces travaux-là, et on va leur donner des kits, et on va vérifier, mais en leur donnant la possibilité, en accès simple, de le faire, on va vérifier qu'ils respectent les règles. C'est idiot, mais par exemple, ça fait nous bientôt 10 ans qu'on met à disposition de tous nos membres, courtiers d'assurance aussi, s'ils sont même pure players, un outil de suivi des obligations des heures de formation de leurs équipes. Bon, ben, dans une grande entreprise, tu as un service qui surveille ça, normalement, encore que quand on regarde la CPR, quand on voit qui elle allume, on se dit tiens, pas sûr. Mais là, nous, l'outil, ben, l'outil qui était aujourd'hui un outil disponible, sera un outil utilisé par tous, mais qui permettra à chacun d'être certain, sauf qu'il n'y a pas que ça, c'est il leur permettra aussi de trouver des formations si en fait leur problème c'est qu'ils ne savent pas les trouver. Et donc cette dimension accompagnement va quand même être assez importante. Et encore une fois, quand je dis accompagnement, c'est pas juste le flicage, c'est que à chaque chose qui est fliquée, il faut être capable d'apporter une solution pour les acteurs qui n'étaient pas capables de la trouver seuls auparavant. Donc certainement, le monde du grand courtage en avait peut-être moins besoin. Mais je refais le même constat, le grand courtage gestion de patrimoine est chez nous. Ils s'y sont adaptés, hein, et ils n'ont pas trop de... Par contre, attention, quand on sort un kit de conformité et qu'on l'amène dans une de ces grandes entreprises de la gestion de patrimoine, c'est parfois un peu plus compliqué quand même, parce que même leurs juristes n'ont pas forcément les mêmes analyses, et ce sont quasiment des travaux collaboratifs pour arriver à une solution qui leur soit acceptable au regard de ce qu'ils font, et ils sont plus complexes que les petits cabinets. Ça, c'est une culture qu'on avait dans l'univers des CIF, il va falloir la créer dans ce domaine, il va falloir que la CPR joue le jeu aussi. Il va falloir qu'elle accepte de nous laisser jouer ce jeu-là, comme l'AMF l'a fait, sinon ça va gripper. Mais commençons. On l'a fait avec l'AMF. Je me souviens des premiers échanges il y a plus de 15 ans avec l'AMF. Ils ont découvert un monde, nous avons découvert le leur, hein, et puis, mais on s'en est sortis.
Peut-être un mot sur la question de la formation, non, oui. Parce que il y a un sujet avec la DDA, donc la directive qui s'applique à nous. Il y a une obligation de 15 heures de formation par an pour tous les collaborateurs exposés, tous ceux qui ont affaire aux clients. D'une part, qu'il y ait une formation importante pour accéder à la profession, nous sommes bien évidemment d'accord. Qu'il y ait une actualisation des connaissances tout au long du parcours professionnel, nous sommes aussi d'accord. Mais 15 heures de formation tous les ans pour tous ces gens-là, c'est un vrai défi parce que, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut trouver les 15 heures à libérer. Et deuxièmement, parce que l'offre n'est pas à la hauteur de cette exigence de l'autorité. Et je peux vous dire que dans les grandes maisons où on essaie de bien faire les choses, on a du mal à trouver une offre qui se renouvelle d'année en année. Les premières années, on y arrive très bien. Mais quand on en est à quelques années après, c'est assez compliqué de trouver une offre répondant aux besoins de former réellement les personnes et des choses intéressantes. Alors, quant à vérifier ensuite que quand une entreprise de courtage affiche qu'elle a fait ses 15 heures, qu'elle les a vraiment faites... Je souhaite bien du plaisir aux associations.
C'est un vrai enjeu. Non, il faut être très très clair. Les outils que nous avons, on est obligé de les faire évoluer. Et puis je vais même rajouter une lourdeur là-dedans qui est personne fait attention, mais qui est bien dans le texte. Alors pas celui de la réforme, les textes d'avant, mais du coup, puisqu'on dit tiens, on va vérifier, il faudra regarder. C'est que je vous rappelle que on est théoriquement sur une évolution. C'est de la formation qui doit pas être la même tous les ans. C'est une formation qui sur un cycle, ça va rappeler beaucoup de choses à ceux qui font de l'immobilier, hein, sur un cycle de 3 ans, doit faire en sorte que les gens progressent, maintiennent leurs compétences et en développent d'autres. Ce qui signifie donc que les outils, par exemple, que nous avions avant, qui vérifiaient simplement que les gens avaient fait leurs 15 heures avec des certificats, déjà complexité, parce que Robert, tu dis on trouve pas d'offres. Oui, mais dans ce pays, il y a plus de 63 000 centres de formation qui sont susceptibles d'en délivrer. Ça peut dire qu'ils le font.
Pas sur nos métiers.
Mais ça peut, oui, mais ça peut venir de n'importe où. On peut découvrir qu'un centre de formation qui n'en faisait pas déclenche, et on va voir arriver ces certificats dans nos outils qu'on ne connaît pas, d'une boîte qu'on ne connaît pas.
Et puis, sans garantie que ça traite des sujets qui ont
vraiment mais quand
un
ils
intérêt.
Sont par exemple Calliope, et on parle déjà de plus de 15 000 entreprises, on n'est pas légitime à leur dire que leur formation est certainement merdique. Parce que ils vont te dire, on a fait tout le parcours normatif, vous pouvez pas, vous qui n'êtes pas l'auditeur, nous dire qu'on peut pas. Donc, il faut imaginer ce que ça veut dire dans nos outils, d'autant qu'en plus, c'est une loi que je trouve par là-dessus très mal faite sur DDA, c'est qu'elle permet à tout un tas d'autres acteurs que ceux de la formation de dispenser de la formation légitime, qui eux vont peut-être même pas produire des certificats qui ressemblent à des certificats de formation. Tout ça pour dire que nos outils, qui jusqu'à maintenant se contentaient de rentrer des formations même quand on les connaissait pas, sous la responsabilité du professionnel, là pour le coup, il va falloir que nos outils soient capables d'identifier non seulement qu'elle est recevable, je vais juste dire recevable, je vais même pas dire qu'elle est ultra qualitative, mais recevable, et qu'ensuite à l'intérieur du cycle des 3 ans de la personne dans l'entreprise, elle est cohérente. Et ça, je vous assure que c'est un des défis des développements en cours et des mises en place de personnel dans les associations. Mmh. Ça, c'est tout à fait réel, c'est très compliqué. Maintenant, en ce qui concerne l'offre, je pense que du coup, l'offre va se développer parce qu'ils sauront où il faut faire et poser les propositions. On a tellement d'entreprises de formation dans ce pays qui savent plus trop bien où taper. Bah, vous avez qu'à voir, hein. On est tous démarchés comme des fous autour de nos droits en formation. Je pense qu'on en aura beaucoup. Après,
par contre, tous les jours un CMS.
Faudra que ça reste qualitatif.
Les femmes d'ailleurs, je pense.
Ouais. Mais il faudra que ça reste qualitatif. Ça, c'est la vraie question, parce que quand on voit des formations qui annoncent qu'elles font 15 heures et quand vous procurez les slides de la formation ou le poly, et ça fait 15 pages. Enfin, il y a un moment où avec des gens qui sont tout à fait sans société de formation, pouvant vous filer le certificat qui va bien. Mais bon, ce sera un deuxième sujet. Celui-ci, j'aimerais bien d'ailleurs que la CPR le gère. Ça, pour le coup, on nous a pas délégué cette mission. Ce serait bien qu'à un moment, la CPR, comme l'AMF côté CIF, aille s'occuper de vérifier si ces sociétés de formation délivrent bien la formation qu'elles revendiquent délivrer.
Merci messieurs, en tout cas voilà, le débat a été pour une fois vif, hein, des positions pas forcément d'accord. Merci en tout cas de les avoir exprimées. Robert Leblanc était notre invité pour ce club Anacofi, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le président d'Aon France. David Charlet, on se retrouve très bientôt. Radio Patrimoine sera bien sûr de la partie pour cette convention du 7 avril au Carrousel du Louvre, avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un prochain club Anacofi.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.